France Info.
Florence Berthoux est notre invitée ce matin. Vous êtes maire du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, Jean-Michel Apathy.
Bonjour Florence Berthoux.
Bonjour.
La situation est bizarre à Paris parce que la circulation automobile sur une partie des voies de Seine, ce que l'on appelle les voies sur berge, est interdite par arrêté municipal depuis maintenant 18 mois. Cet arrêté municipal a été invalidé par la justice administrative il y a 10 jours. On devrait donc pouvoir circuler sur la Seine. Ça n'est toujours pas le cas. On va voir ce que vous en pensez. C'est une situation étrange qui est devenue illégale. La mairie de Paris et la ville de Paris sont dans l'illégalité désormais, mais quand elle a appris la nouvelle de l'annulation par le tribunal administratif de son arrêté, Anne Hidalgo n'était pas contente et elle vous en faisait peser la responsabilité. Florence Berthoux, on écoute Anne Hidalgo.
Nous avons décidé de faire appel de cette décision et de prendre sans attendre un nouvel arrêté de piétonnisation. Le recours qui nous amène aujourd'hui à cette situation a été déposé par la droite parisienne et régionale. Pour ces élus, la circulation automobile est prioritaire sur la santé publique.
C'est vrai ? Vous préférez la voiture à la santé ?
D'abord, des dizaines de Parisiennes et Parisiens ont fait des recours. Il s'avère que le tribunal administratif a dit les seuls qui sont autorisés à ST, eh ben, c'est la région et puis les communes. Il y avait quand même plus d'une centaine de communes. Toutes les communes ne sont pas dirigées par un élu de droite. C'est très inexact. La réalité, c'est que il y a une décision de justice et la maire ne respecte pas cette décision de justice.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut
ouvrir la voiture ? Elle s'estime au-dessus du droit. C'est pas la première fois qu'on a ça. Si vous regardez ce qui se passe depuis un an, c'est pas la première fois. Les décisions se sont multipliées. On a démarré en février dernier par une information judiciaire pour suspicion, suspicion sur, vous le savez très bien, sur la voie sur Paris plage.
On va rester sur les voies sur berge. Anne Hidalgo a dit j'ai fait appel, mais l'appel n'est pas suspensif devant la justice administrative.
Non, c'est pas suspensif.
Je vais prendre un nouvel arrêté, mais ça, il ne peut pas être pris en plusieurs mois puisqu'il faut une étude d'impact. C'est la raison pour laquelle le premier arrêté a été annulé. La question qui vous est posée, Florence Berthoux, à vous qui dirigez l'opposition municipale, est-ce que vous souhaitez que les voies sur berge soient réouvertes?
C'est pas comme ça, si vous permettez que la question se pose. La question, c'est est-ce que interdire la circulation 3 km 3 sur 3 km 3 de voies sur berge, en l'espèce la voie Pompidou, qui figurait pas explicitement, contrairement à ce que j'entends ici et là dans son programme, est-ce que interdire ça, ça améliore la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens? Est-ce que ça fait baisser la pollution? C'est ça. Puisque la décision qui a été prise a été prise sur une étude d'impact et que l'étude d'impact montrait que le gain était très loin d'être évident.
Est-ce qu'il faut rouvrir les voies sur berge aux voitures?
Moi, ce que je crois...
Est-ce qu'il faut rouvrir les voies sur berge aux
voitures?
Non,
ce n'est pas comme ça que je pose la question.
C'est ce que dit le tribunal administratif. Vous venez de dire, Madame Hidalgo, est au-dessus des lois.
Je pense
donc
qu'il
vous,
faut...
vous vous placez où par rapport à la loi? Vous vous placez à côté?
Je pense qu'il faut changer la méthode et je pense que je vais faire une proposition extrêmement précise. Je pense que nous pourrions, dans une période transitoire, par exemple, réouvrir à la circulation la voie Pompidou quand il y a le plus de monde, c'est-à-dire 5 jours par semaine en dehors des vacances scolaires. Et on pourrait tout à fait imaginer que les week-ends et les vacances scolaires, à titre expérimental, nous piétonnisons les voies. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec l'appui de la région, qui est prêt à financer. Eh bien, on fait ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Par exemple, pour augmenter la cadence de la ligne 1. Par exemple, pour mettre en place un bus à haute qualité de service.
D'accord,
Par exemple, pour mettre en place des carrefours intelligents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis maire du 5e arrondissement. Qu'est-ce que je vois? Je vois, et les études le prouvent, une augmentation assez vertigineuse par moment de dioxyde d'azote. C'est quoi le dioxyde d'azote? C'est quand même un des polluants les plus cancérigènes.
D'accord.
Si on veut lutter contre ça, eh bien, il faut éviter les reports de circulation.
Donc vous dites
et
une
aujourd'hui,
réouverture
je dis,
partielle.
Et aujourd'hui,
c'est ce qu'on
je dis,
ce matin.
Et aujourd'hui, je dis, oui, les conditions ne sont pas réunies pour que nous ouvrions les voies sur berge 7 jours sur 7, tout au long de l'année.
Non.
Les conditions ne sont pas réunies
si vous me permettez,
puisque
votre proposition a deux défauts.
Les études montrent que cela a des conséquences sur la pollution.
Votre proposition a deux défauts.
D'abord, il suffit de prendre un arrêté, vous
savez. Votre proposition a deux défauts. Non, je ne crois pas que ce soit aussi simple l'arrêté. Non, vous m'avez contrarié tout à l'heure, mais je pense que l'étude d'impact est nécessaire pour le second arrêté. Mais peu importe.
Je le souhaite en tout cas.
Voilà, votre proposition a deux défauts.
Je le souhaite. Je ne suis pas sûr qu'elle va pas essayer de s'en passer.
Votre proposition a deux défauts. D'abord, elle ne respecte pas le droit. La justice administrative dit quelque chose et personne n'en tient compte.
Non mais aujourd'hui, il faut appliquer.
Bah donc, il faut ouvrir les voies sur berge.
Aujourd'hui.
Et si vous ouvrez les voies sur berge, c'est le deuxième défaut.
Aujourd'hui, il faut appliquer.
Et si vous les fermez deux jours, de toute façon, la question de la pollution, vous ne la réglez pas.
Non, il faut prendre un autre arrêté, bien sûr que si. Si
vous me laissez
juste terminer, il faut prendre un autre arrêté. Il faut prendre un arrêté, la loi le permet. Et cet arrêté peut, à titre expérimental, ouvrir
donc
les périodes où il y a beaucoup moins de circulation.
Vous demandez la réouverture des voies sur berge.
Pourquoi la réouverture 5 jours sur 7, ça me paraît évident. C'est pas moi qui le demande.
Oui.
Non, c'est pas moi qui le demande. C'est le juge administratif qui a des attendus qui sont extrêmement sévères, puisqu'il dit, il y a eu dans votre étude plein d'omissions, plein d'insuffisances.
Juste,
c'est quand même jamais vu.
Si la justice confirme en appel la première décision, là, vous direz quoi? Vous direz, on rouvre 7 jours sur 7, 365 jours par an.
À titre personnel, je préside un groupe, mais nous faisons du collectif, contrairement à Madame Hidalgo. Moi, je suis partisante à titre personnel que l'on puisse faire une expérimentation accompagnée. Mais pour faire une expérimentation accompagnée, il faut des mesures compensatoires. Par exemple, des carrefours intelligents. Donc il faut une période transitoire. En tout cas, il faut reprendre tout le process de consultation au début. Il faut reprendre le process de consultation
au début. Les questions simples méritent parfois des réponses simples, mais je pense que vous l'avez faite. Il faut ouvrir les voies sur berge. Voilà.
C'est pas tout à fait ce que j'ai dit,
pas tout à fait, mais à 95%.
En tout cas, il faut appliquer la décision de justice, ça me paraît évident. Mais ça, c'est le droit. Ça, c'est le droit. C'est ce que dit le tribunal administratif. Mais vous verrez que Madame la maire de Paris va reprendre un arrêté dans les heures qui viennent.
Pour l'instant, elle n'a pas repris. Aujourd'hui,
dans les heures qui viennent.
Aujourd'hui,
je pense qu'en début de semaine prochaine, vous verrez qu'elle reprendra.
Vous avez des informations?
Un arrêté.
Vous avez des informations?
Un arrêté pour dire quoi?
Vous verrez qu'elle reprendra un arrêté pour réinterdire à nouveau la circulation.
Vous avez des informations pour dire ça?
Je pense que Madame la maire de Paris reprendra
un
arrêté parce qu'elle fonctionne comme ça.
Bien, vous restez avec nous, Florence Berthoud. 8h40, l'essentiel de l'info, Agathe Mahuet.
Les détails de la réforme de l'assurance chômage dévoilée par Muriel Pénicaud dans Le Parisien. Une indemnisation mise en place des 5 années de présence dans une entreprise pour un salarié qui démissionne afin de lancer sa propre boîte. La ministre évoque aussi une aide de 800 euros mensuels pendant 6 mois pour les indépendants qui seraient en liquidation judiciaire. Les cheminots pas vraiment soutenus par les usagers du train. Plus de 7 Français sur 10 se prononcent pour la fin de leur statut spécifique. Dans un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info. Une majorité, 58%, trouve également qu'une grève à la SNCF serait injustifiée. Si vous utilisez pour regarder la télé une box Canal+, eh bien vous n'avez plus accès aux chaînes du groupe TF1. Les programmes ont été arrêtés brutalement hier soir, faute d'accord commercial. TF1 veut en effet faire payer désormais aux opérateurs la diffusion de ces services, ce que n'accepte pas le groupe Canal. La chaîne cryptée qui diffusera en clair ce soir la 43e cérémonie des Césars, une édition dédiée à Jeanne Moreau. Parmi les films en lice pour le meilleur long métrage, 120 battements par minute. Et puis Au revoir là-haut qui font figure de favoris.
France Info. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy.
Alors l'importance de Paris fait qu'on regarde beaucoup la situation politique. Le Figaro fait sa une ce matin sur l'après Hidalgo qui aurait déjà commencé selon le quotidien. On a noté il y a quelques jours de cela que celle qui était la leader de l'opposition en 2014, Nathalie Kosciusko-Morizet, va quitter Paris, elle va rejoindre New York pour le compte de l'entreprise pour laquelle elle travaille maintenant. Qu'est-ce qu'on dit dans votre cas? Bon débarras?
Certainement pas.
Qu'est-ce que vous dites?
Certainement pas. Elle a beaucoup contribué à renouveler les têtes dans notre famille politique, si, à Paris.
Elle a beaucoup divisé aussi, non?
À Paris, c'est un tempérament qui a beaucoup apporté, à la vie politique. Donc elle a fait un choix. Moi, je le respecte.
Il n'y a plus, à droite, on a l'impression qu'il n'y a plus grand monde, en fait, hein.
Nous, on est en train de se construire. Donc, le temps médiatique, c'est pas le temps, le temps politique.
Ça approche. Hein,
nous opposons, nous faisons des contre-propositions. Et puis, il y aura le temps de la candidature. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir qu'il y ait, et nous avons des talents qui incarneront un contre-programme. C'est vraiment une contre-politique qu'il faut faire.
Il y a des primaires pour
départager
les candidats.
Il y a le fond, et puis il y a la méthode qui est aujourd'hui une méthode qui est absolument détestable.
Il faudra des primaires pour départager les candidats à droite, pour désigner le candidat de la droite qui affrontera
Hidalgo. À titre personnel, moi, je ne suis pas fan des primaires. Mais si le groupe le souhaite, c'est ce que nous ferons.
La situation est compliquée et certaines personnalités à droite préconisent une alliance entre La République En Marche et la partie de...
Les Républicains,
voilà, je cherchais.
Et Républicains et Indépendants, d'ailleurs, parce que je préside un groupe qui est Les Républicains et Indépendants, et le mot indépendant, aujourd'hui, est aussi important.
Celui qui l'explique le mieux, c'est Jean-François Copé, au micro de LCI.
Je pense que la question, aujourd'hui, de voir comment la faire battre en 2020, aux prochaines élections municipales, se pose pour tout le monde. Et s'il devait y avoir une réflexion pour voir comment Les Républicains et En Marche pouvaient se mettre d'accord à Paris...
Une alliance des Républicains En Marche pour détrôner Anne Hidalgo.
Ah bah attendez, mais c'est une exigence. C'est même pas simplement parce qu'elle est socialiste. C'est parce qu'elle est dangereuse pour la ville.
C'est une exigence, une alliance entre les Républicains et la République En Marche.
L'exigence, c'est d'abord de faire battre Anne Hidalgo. Oui. Tout simplement parce qu'Anne Hidalgo c'est une mauvaise politique. On est au bord de la banqueroute à Paris. Personne ne semble s'en émouvoir.
On est passé. C'est pas une exagération, ça ?
Non. Quand on passe de 2 milliards d'endettement à 6 milliards d'endettement, quand on augmente de 10% la masse salariale sur 3 ans, c'est absolument du jamais vu.
Augmentation de 10% de la masse salariale.
Augmentation de 10% en 3 ans. À la fin du mandat, elle aura multiplié par 3 la dette. Je pourrais multiplier à l'infini les exemples avec surtout des décisions de justice qui ne sont pas respectées, une gestion totalement aléatoire sur le code des marchés publics qui n'est pas respecté. Tous les jours, cette espèce d'incohérence coûte des millions d'euros aux contribuables. Donc l'urgence, c'est surtout évidemment de faire battre Anne Hidalgo, sa politique, qui est une politique objectivement très idéologue.
Est-ce que ça passe par une alliance entre les Républicains et La République En Marche ?
Par une alliance, je rappelle que l'élection, une des grandes caractéristiques de l'élection parisienne, c'est aussi et surtout d'avoir 20 élections, avec 20 aussi têtes d'affiche.
Il faut quelqu'un qui incarne ce combat.
Aujourd'hui,
c'est pas un combat décentralisé, il faut que quelqu'un incarne ce combat.
Nous avons aujourd'hui 9 maires d'arrondissement, dont je fais partie, qui sont des maires d'arrondissement LR sur 20. Donc le temps n'est pas aux alliances.
Vous auriez envie de remplacer vous, Anne Hidalgo, pour être candidate à la mairie de Paris ?
Non. Je suis au service du collectif, c'est très clair, je le dis, je le redis, et je pense que c'est une erreur que nous avons faite dans notre famille politique de considérer que le président ou la présidente du groupe devait être naturellement candidate. Chacun doit avoir sa place et doit avoir sa place dans un collectif. Pour y arriver, il faut qu'il y ait un programme, il faut un groupe qui fonctionne, il faut qu'il y ait de la solidarité entre nous.
Bien, juste pour être clair, donc ce que dit Jean-François Copé, l'alliance n'est
je
pas...
Je dis c'est pas à l'ordre du jour.
C'est pas à l'ordre du jour ou c'est pas une bonne idée ? C'est
pas
la même chose.
Ça n'est pas à l'ordre du jour.
Mais un jour peut-être.
C'est peut-être une bonne idée.
Ce n'est pas à l'ordre du jour.
Mais c'est peut-être une bonne idée.
Ça peut être aussi un candidat LR.
Mais ça peut
en
être...
tout cas, aujourd'hui, voilà. Ce que je souhaite, c'est que ce soit...
Vous ne récusez pas l'alliance.
Un candidat LR ou un candidat qui appartient à notre famille élargie, y compris du côté des constructifs.
Alors on en connaît un qui est intéressé, il fait partie de La République En Marche, Benjamin Griveaux, qui est le porte-parole du gouvernement, était notre invité mardi et à la toute fin d'émission, voilà ce qu'il disait du bilan d'Anne Hidalgo.
Il y a encore 2 ans avant la fin de son mandat, et nous prendrons le temps de voir si elle est une bonne mère ou pas. Sans doute peut-on faire un peu mieux.
Un peu mieux, c'est-à-dire à Paris.
Un peu mieux qu'Anne Hidalgo.
Un peu mieux qu'Anne Hidalgo.
Avec vous ?
Mais ça n'est pas le sujet.
Mais on peut faire un peu mieux qu'Anne Hidalgo. Voilà, on peut faire un peu mieux. Ça l'intéresse quand même.
Il y a un point de divergence, au moins sérieux. C'est pas qu'on peut faire un peu mieux. Qu'on peut faire beaucoup mieux et qu'on doit faire beaucoup mieux sur les logements, sur la propreté, qui est un drame, sur l'accès aux services publics, elle supprime les crèches pendant les vacances scolaires, sur le bien-vivre. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on peut faire, non pas un peu mieux, mais beaucoup.
Benjamin Griveaux est, il a été élu député de Paris maintenant, il est ministre, donc il n'est plus député, mais ça l'intéresse évidemment.
Nous avons une force.
Ça pourrait faire
aujourd'hui,
un bon candidat.
Aujourd'hui, nous avons une force chez les LR. Ouais. Et la force, c'est d'être des élus de terrain. Alors, vous le voyez peut-être pas depuis le studio, mais nous sommes des élus de terrain. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs conquis neuf mairies d'arrondissement dans un, je dirais, contexte
mais
qui n'est pas si évident.
Pas de, pardon pour l'expression, de tête de gondole.
Mais, encore une fois,
alors,
le temps n'est pas celui-là. Ça, c'est votre temps. C'est votre
temps médiatique. Vous ne pensez pas que deux ans, c'est quand même un minimum pour faire une campagne pour une ville aussi importante que Paris.
Ce que je crois, c'est qu'à la fin de l'année, il faudrait que nous ayons un champion ou une championne.
Un parachuté.
En attendant, il faut que nous ayons un champion ou une championne. Voilà, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs qu'un parachuté. Vous savez, je n'étais pas une élue du 5e arrondissement. J'ai été élue dans un arrondissement où Hollande faisait 56% et j'avais un candidat de ma famille politique contre
Valérie
moi.
Valérie Pécresse, par exemple.
Oui, un parachuté, oui, c'est ça. Oui.
Non,
je
ne crois pas. Valérie l'a dit. Pécresse l'a dit. Valérie est une très bonne présidente de région, et on a besoin d'elle à la région parce que elle nous aide beaucoup, elle nous aide aussi à corriger les méfaits de la politique conduite par la maire de Paris.
Un parachuté, c'est quelqu'un qui est élu en Corrèze et qui se présente à la mairie de Paris, par exemple.
Ça, ce sont des choses qui arrivent.
C'est du parachutage. Donc il faut un champion à la fin de l'année, ou une championne.
Il faut un champion, une championne, ça
à
c'est
à la fin de l'année, ça
mais,
veut dire... Excusez-moi,
ça veut dire qu'il faut... Mais en attendant, il faut
qu'on
bosse,
qu'il faut s'en soucier. Oui, c'est ça, il faut s'en soucier au début de l'année, quoi. Hein. Il faut commencer à s'en soucier au début de l'année.
Oui, mais on a quelques idées.
Voilà. Alors, allons-y.
Oui, on vous écoute.
Non.
Alors, Le Figaro, ce matin, en donne une.
Ah oui.
Qui vous concerne pas... Peut-être qu'Edouard Philippe regarde la situation.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui.
Edouard Philippe, qu'est-ce que
vous en pensez ? Il y en a beaucoup qui ont des candidats.
Non, mais Edouard Philippe, qu'est-ce
que vous pensez ? Le sujet, encore une fois.
Quand vous avez lu ça, vous avez dit quoi ?
Le sujet.
Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez lu ça ?
Je me suis rien dit. Je regarde et j'observe. Voilà. Je regarde et j'observe. Mais nous avons d'excellents candidats.
C'est pas mal, un ancien Premier ministre, parce que dans cette hypothèse-là, il quitterait
notre famille.
Il quitterait le gouvernement.
Mais dans cet article, il y avait quelque chose qui était dit aussi, qui était très intéressant.
Allez-y.
C'est l'idée d'avoir, encore une fois, un contre-programme et des propositions. Donc, faut pas mettre la charrue. Oui, mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord avoir un programme, ce à quoi nous travaillons. Et puis, il faut une personne qui l'incarne. C'est dans ce sens-là que ça doit se passer.
En fait, il faut les deux, quoi.
Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Agathe Mahuet.
Toujours 19 départements du quart nord-est en vigilance orange, neige et verglas. Ça glisse notamment ce matin sur la Côte d'Or. L'autoroute A38 est fermée dans les deux sens, au moins pour 2 heures. Opération de salage en cours sur 10 km. Alors que le sud connaît un redout assez spectaculaire, 10 degrés attendus sur l'Hérault, mais aussi de fortes précipitations. Les crèches, les centres de loisirs de Montpellier vont rester fermés pour la journée. Les manifestations interdites dans la Meuse tout le week-end. La préfecture l'annonce alors que les opposants au centre des déchets de Bure préparaient un rassemblement. La première preuve de vie de Sophie Pétronin depuis plus de 6 mois. L'humanitaire de 72 ans, très affaiblie, est retenue en otage par un groupe lié à Al-Qaïda au Mali. Elle apparaît dans une courte vidéo diffusée par ses ravisseurs. Et puis Carles Puigdemont renonce provisoirement à briguer la présidence de la Catalogne. L'élu destitué, toujours exilé à Bruxelles, il espère ainsi faciliter la mise en place d'un gouvernement. Il était jusque-là le seul candidat depuis la victoire régionale des indépendantistes. C'était en décembre.
Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy.
Donc vous êtes membre des Républicains. Laurent Wauquiez préside votre parti, vous avez voté pour lui ou pas ?
Je soutiens le président qui a été élu.
Ma question, c'est ce que vous avez voté pour lui ?
Mais ça, je soutiens le président qui a été élu. Bon, voilà, c'est d'ailleurs la réponse que...
Vous n'avez pas voté pour lui.
C'est pas la langue de bois. D'ailleurs, considère qu'à un moment donné, devons soutenir le candidat qui a été élu.
Vous n'avez pas voté pour lui. Devant des étudiants à Lyon, l'affaire a fait un peu de bruit. Laurent Wauquiez a dit, au milieu de beaucoup de choses, quelque chose qui nous a tout de même intéressé pour cerner le rapport que peut entretenir Laurent Wauquiez avec la vérité des faits. Il a dit ceci à propos de Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République et quand il accueillait ses ministres en Conseil des ministres. On écoute Laurent Wauquiez.
Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient au Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos.
Alors évidemment, ça a suscité un peu de stupéfaction. Comment Nicolas Sarkozy espionnait ses ministres et confronté à ce type de questions, quelques jours plus tard, Laurent Wauquiez sur BFM a dit ceci.
Vous voyez ce passage ?
Oui.
C'est le seul que je regrette. Et celui-là, je le regrette vraiment. J'en ai présenté mes excuses à Nicolas Sarkozy.
Bon, donc voilà, donc visiblement il a raconté.
Moi j'ai pas envie de commenter, si vous voulez. Ça a tellement été commenté, abondamment.
Non, quand même, vous dites que vous le soutenez. Donc Laurent Wauquiez dit quelque chose, Nicolas Sarkozy nous espionnait, et puis ensuite devant le tollé il dit ah non, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Et vous le soutenez, enfin, quand même curieux, comment vous réagissez quand vous voyez qu'un responsable politique peut faire ça ? Qu'est-ce que vous vous dites ?
Il y a un style, c'est pas forcément.
Vous appelez ça un style ?
C'est pas forcément le style oratoire que je préfère.
Non, c'est
voilà.
Sur le fond, c'est le rapport.
Une manière de se comporter. Non,
c'est le rapport à la réalité.
C'est pas tout à fait.
Ça vous inquiète pas ?
C'est pas tout à fait comme ça que ça se présente. Mais
ça vous inquiète
c'est
pas ?
C'est vrai que c'est un style qui est pas forcément celui que je préfère.
Mais sur le fond, voilà. Il y a une critique permanente par rapport à Laurent Wauquiez, sur son rapport à la vérité. On l'a dit par rapport à Emmanuel, par rapport au fait qu'il savait parler l'arabe. C'est une critique qui revient régulièrement. Oui. Est-elle justifiée ?
Oui, écoutez, il y a aussi beaucoup de bashing. Bon, il y a aussi beaucoup de bashing.
Non, mais là, c'est
il
concret.
Dit aussi des choses qui sont
sûr,
extrêmement fortes. Non, mais par exemple, sur la question des territoires et de la ruralité. Je vous ai répondu.
Ça vous inquiète ou pas ?
Je vous ai répondu.
Vous dites que ce n'est pas tout à fait mon style, mais ce n'est pas une question de style. C'est une question de confiance. Vous avez confiance en lui ?
Je crois que moi j'ai confiance en son courage et en sa capacité, en tout cas, on parlait tout à l'heure de l'incarnation, mais à incarner une opposition sur des sujets qui sont d'ailleurs pas forcément, à Paris en tout cas, nos sujets prioritaires. Mais je pense qu'il incarne aussi cette opposition qui est une opposition crédible et qui est une opposition argumentée. Vous avez tout à l'heure d'un revers de main évidemment renvoyé mon début de réflexion sur la ruralité, mais qui est un vrai sujet, c'est-à-dire cette France aussi qui est la France périphérique, qui est la France oubliée et à laquelle le président Macron ne s'adresse pas aujourd'hui. Et il a en tout cas cette singularité, cette force et cette volonté.
Sur Paris, Laurent Wauquiez, il aura évidemment son mot à dire. Peut-être même que c'est lui qui décidera, qui mènera la bataille pour les Républicains dans la capitale.
On a trop longtemps décidé à notre place. Et pour le coup, je pense que ce sera une décision qui sera prise collectivement. Voilà. Est-ce qu'il y aura ou pas une primaire ? Ça va être un point. Mais après, on ne nous volera pas le choix de notre championne ou de notre champion. Ça, c'est une certitude et c'est une volonté partagée avec tous mes collègues du groupe LRI.
Alors, ça a été remarqué au début de la semaine, Laurent Wauquiez a reçu un soutien. C'est venu de là où on ne l'attendait pas, il faut bien le lire sur son blog. Jean-Luc Mélenchon a écrit ceci à propos de Laurent Wauquiez et du rapport, des difficultés que Laurent Wauquiez peut avoir avec les médias. Laurent Wauquiez s'est pris une lourde attaque globale du parti médiatique. L'affaire est ridicule, trois phrases volées. Et puis il poursuit sur son blog en disant « Vous avez résisté, monsieur Wauquiez, bravo ». Ce soutien de Jean-Luc Mélenchon, vous suscitez quel commentaire chez vous ?
Qu'est-ce que vous voulez que je commente le sujet Mélenchon ?
Parce que vous avez dit au détour de la phrase, oui, il y a quand même un Wauquiez bashing. Donc,
oui, mais c'est vrai.
Est-ce que vous pensez que
D'abord, la presse n'est pas injuste. La presse a fait son métier, un métier qui est un métier qui s'exerce dans la liberté, comme celui des juges. Bon, voilà. Je pense qu'elle n'est ni pas plus instrumentalisée ou hable, si vous me passez ce néologisme, qu'un juge. Mais on y revient beaucoup, beaucoup, avec beaucoup d'insistance.
On y revient beaucoup, quoi, sur les propos de Laurent Wauquiez ?
Oui.
Parce que c'est, ça vous paraît...
Passons à autre chose, la politique ce n'est pas ça.
Vous avez raison, la politique c'est... La politique,
je ne vais pas vous dire que je m'y retrouve, si c'est ce que vous voulez que je
non,
vous
non,
dise.
Non, on a compris, on a compris.
Mais une fois qu'on ne s'y retrouve pas, la politique, ça n'est pas que le commentaire des commentaires. C'est aussi faire des propositions, faire des contre-propositions, argumenter, et c'est le débat. Là, vous voyez bien qu'on n'est pas dans le débat, on est dans le commentaire des commentaires. Bon,
oui,
je n'étais pas à cette réunion,
ouais,
je vous
sûr.
Ai dit ce que j'avais... à vous dire, et je crois que c'est un état d'esprit qui est assez partagé, quelle que soit la proximité qu'on a ou qu'on n'a pas avec le président de la famille à laquelle j'appartiens.
La politique, vous avez raison, ce sont des projets, des idées, des propositions pour résoudre les problèmes qui sont posés à la collectivité. Et
puis, c'est ce qu'on nous demande.
Absolument. Et puis c'est aussi...
Les électeurs, ils ne nous demandent pas de commenter
en
permanence.
Et puis c'est aussi le caractère des dirigeants, leurs valeurs, leur comportement que nous regardons jour après jour. C'est tout ça, la politique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Merci beaucoup Florence Berthoud. Bonne journée à vous.